Bonjour, bienvenue dans un monde où les cœurs battent vite, très vite. Ici, on drague comme on respire. L'amour, c'est simple comme un coup de pouce à droite quand vous aimez, ou bien à gauche quand vous le jetez. Pas de temps à perdre, il faut scorer. Alors ensemble, on va liker, on va matcher, chasser, pêcher et passer des jours entiers connectés, des jours entiers à flirter par téléphone interposé, une semaine avant de franchir le pas en moyenne pour les Français, ce qui fait de nous les plus grands romantiques de la planète Tinder, planète dont les utilisateurs se comptent par dizaines de millions, le chiffre exact en est gardé secret. En tout cas, chaque jour, l'application est visitée plus d'1,5 milliard de fois dans le monde. Par qui ? Qui est sur Tinder ? Les 18-35 ans en majorité, hommes et femmes quasi à égalité, ils sont urbains et CSP+, pour la plupart. Certes, Tinder a des petites sœurs qui bientôt la mettront au rancard, n'empêche que la séduction d'aujourd'hui, c'est ici qu'elle se codifie. Et comme vous tous, vous avez eu au moins une fois, vous aurez peut-être encore demain, l'envie de rencontrer l'amour, le vrai, ou le coup d'un soir, hein, ça marche aussi. Autant savoir de quoi on parle, Tinder, comment ça marche ? Eh bien, 1, je télécharge l'application sur mon smartphone. 2, je crée mon profil. 3, je fais défiler les profils des autres utilisateurs. L'un d'eux me plaît, je lui fais savoir par le fameux coup de pouce à droite. Je lui plaît aussi, paf, ça s'appelle un match. Vous l'avez ? On peut y aller ? Eh bien, ce matin, bienvenue sur Tinder.
France Inter, dans quel monde on vit ? Julia Foyce.
Et pour nous guider dans les méandres de la rencontre 2.0, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui a su donner de sa personne. Anna Kerr, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce Tinder surprise paru chez Belin, où vous racontez vos pérégrinations sur Tinder, 2 semaines et 20 rencontres au compteur. Vous nous direz comment, vous nous direz pourquoi. Mais d'abord, vous romantique, vous précoce, vous qui à 4 ans décidâtes de vous marier avec Benjamin parce qu'il vous avait prêté un feutre pour rendre le ciel heureux sur votre dessin. Le même Benjamin qui mit les voiles un jour parce que ses parents, les salauds, décidèrent de déménager. Eh bien vous, pas rancunière, vous, amoureuse encore, vous, cœur d'artichaut, ou plutôt Kinder Bueno, vous êtes consolée dans les bras de Louis, vous qui, une fois adulte, dédiez votre livre à votre papa. Anna Kerr, vous saviez que vous n'étiez pas tout à fait bien taillée pour Tinder avec ce CV ?
En fait, je pense qu'il n'y a personne qui est bien ou mal taillé pour Tinder. Je pense qu'il y a un moment de sa vie où on peut être sur Tinder et à tout moment de sa vie, ouais.
Comme beaucoup d'anciennes petites filles, vous avez cru au prince charmant. Elles sont un peu moins nombreuses à l'avoir rencontré, mais vous l'avez eu, votre fou de Bassan, c'est comme ça que vous l'appelez. Alors déjà, c'est quoi un fou de Bassan et c'était qui pour vous ?
Un fou de Bassan, c'est un grand oiseau.
Moi je disais Bassan parce que je partais à l'étranger, comme ça c'était exotique.
C'est un grand oiseau, c'est un peu comme une mouette finalement.
Ouais. Et sa particularité amoureuse et comportementale, je crois que c'est de rester à vie avec la même femelle, c'est ça ?
C'est incroyable, hein ?
Ouais.
Part en migration, il revient et il retrouve sa femelle. Et sinon, il ne se remarie pas.
Et vous l'aviez trouvé ? Votre oiseau éternel,
la mouette.
Éternel romantique, ouais, vous l'aviez, du moins vous le croyez, c'est-à-dire que vous aviez rencontré ce prince charmant, vous aviez rencontré l'amour.
Oui, je pense qu'il y a toujours un moment où on a il s'appelle Alex qui m'a brisé le cœur dans le roman, et je pense qu'on a tous un Alex qui m'a brisé le cœur.
Et il vous a brisé le cœur comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pardon, je suis un peu sadique, mais il faut quand même un peu planter le décor.
On s'est juste séparés, les grandes séparations de la vie, tout simplement.
Donc, petit cœur en miettes. Le salaud, lui aussi, il vous laisse sur votre île, ou plutôt dans la grande île où vous vous retrouvez seul. Ah non, pas seul, parce qu'il y a Dragos. Alors, Dragos, c'est un plombier qui est particulièrement entreprenant. Dites-nous ce qu'il fait, ce Dragos.
Dans un premier temps, Dragos répare une fuite, tout simplement.
Comme ça arrive souvent pour les plombiers.
Finalement, il fait son boulot.
Ouais.
Et puis, il se trouve qu'apparemment, quand il vient réparer la fuite, il a une attirance. Enfin, je dois être particulièrement séduisante ce jour-là, donc quand je suis dans mon vieux jean troué, et il tombe follement, éperdument amoureux de moi.
Alors, à sa décharge, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de films pour adultes qui commencent avec un plombier. Pardon, mais c'est quand même l'image d'Épinal. Donc,
justement,
il s'y est cru.
Et je crois justement qu'il y a un gros problème de fantasme là-dessus, si l'on doit en parler. Parce que si vous avez déjà trouvé...
Parlons du fantasme du plombier à 9h13 sur France Inter. Oui, c'est une bonne idée.
Parce que... Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un plombier séduisant.
Oui. Ah, Joker, je ne sais plus.
Ou qui vous a fait rêver. Parce que personnellement, Dragos ne m'a jamais fait rêver, en tout cas. En tout cas, j'ai fait beaucoup de rigueur. J'ai fait beaucoup de rigueur Dragos.
Oui.
Et donc, Dragos m'a assené de messages.
De messages, tous,
tous plus romantiques et salaces les uns que les autres.
D'accord, au début on est dans le romantisme et puis petit à petit on vire dans le salace. Donc il y a Dragos d'un côté, de l'autre côté il y a Alex... L'ex, donc, qui vous a brisé le cœur, qui revient, qui va se pointer. Et donc, vous décidez quoi ? avec vos copines. C'est le début, c'est le lancement de ce Tinder surprise, dites-nous.
De faire un grand pari, donc l'héroïne fait un grand pari avec ses copines dans un restaurant.
Alors je précise, vous dites l'héroïne parce que en sous-titre il y a marqué roman. C'est un mélange de roman, de fiction et d'éléments de vrai, bien sûr, de choses qui vous sont évidemment arrivées dans la vraie vie.
Je pense que de toute façon, si pour tous les gens qui lisent le roman et qui ont été sur des sites de rencontres, trouvent beaucoup d'éléments qui se sont passés, je pense. Donc ce soir-là, un samedi soir de février, elle décide de faire un grand pari avec ses copines et de rencontrer 20 hommes en 10 jours. Donc, finalement, c'est pas évident de rencontrer, enfin, rendez-vous amoureux, hein, pas de rencontrer dans la rue. Et finalement, c'est pas si facile de rencontrer 20 hommes en 10 jours. Donc, elle décide de s'inscrire sur Tinder après une multitude de... Enfin, elle pense à énormément d'options qui finalement ne sont pas très viables. Et devant le peu de temps qui lui est alloué, eh ben, elle décide de s'inscrire sur Tinder.
Alors, vous racontez ces rencontres dans votre livre. On va donc croiser successivement Matt le radin, Hans le skater en plastique, Thomas l'obsédé des chats, un asthmatique sans ventoline ou encore un concessionnaire vraisemblablement atteint d'un Gilles de la Tourette. Et pour se mettre dans l'ambiance tout de suite, on écoute Kelly Smile, Let the Beach Know. We all know somebody in our circles. But embody selfishness to its fullest. She has no love or shame. She is cutthroat and envious from toe up. But she will never admit it though. She's by your side every single day, smiling at you, but wishing, praying for your downfall. But guess what, mid-thing? You got it all wrong. Cause I figured you out from the beginning. Whatever she gets, whatever is never enough. Whatever she takes, whatever she wants. She wants your man, she craves your job, she dreams your life, and everything that goes with it. Vous êtes sur France Inter. Dans quel monde on vit vous plonge ce matin dans les affroulés bonheurs de la drague en ligne, de la rencontre 2.0. D'ailleurs, tenez, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux avec ce hashtag Dans quel monde on vit. Vous nous retrouverez sur Twitter ou sur Instagram via mes comptes perso. On est là, on vous répondra. Si c'est par mail que vous préférez nous joindre, aucun problème évidemment. Écrivez-nous à cette adresse Dans quel monde on vit @radiofrance.com. On vous attend.
Est-ce que vous acceptez les divorcés ou est-ce que vous voulez uniquement des célibataires ? Célibataires, c'est un peu difficile aussi.
Non, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Veuf ou divorcé.
Veuf ou divorcé, vous acceptez. Jusqu'à quel âge iriez-vous ? Âge en rapport ou un peu plus âgé ? En général, nous comptons jusqu'à 7 ou 8 ans de plus, les messieurs, voyez ?
Oui, ça me semblerait bien.
Ça vous semblerait bien, voilà. Alors, des messieurs de 7... Voilà.
Voilà, voilà. L'extrait date de 75. Christiane Paulfort, journaliste à France Inter, s'était infiltrée dans une agence matrimoniale. Voynacker, dans votre roman, qui n'est pas tout à fait un roman, mais qui est quand même un peu un roman, Tinder Surprise, vous croisez en 2 semaines, on le disait. Alors, vous croisez des dizaines de profils sur votre téléphone. Vous en rencontrez une vingtaine dans la vraie vie. C'est l'un de ces profils-là qui vous accompagne ce matin. Je déconne. En revanche, c'est la photo d'un homme que vous avez choisi pour notre immersion. Il s'agit d'Olivier, 34 ans, je le lis sur son profil. Mais encore, dites-nous, de qui il s'agit ?
Alors, c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout, très honnêtement. C'est juste que la photo était très représentative d'un profil Tinder.
Ah, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est une photo qui... Alors, d'un profil, tout simplement. Bon, déjà, il y a le prénom de la personne, il y a son âge, il y a sa profession. Il y a la distance à laquelle il est de moi au moment où je croise son profil.
D'accord,
parce que c'est Tinder est géolocalisé.
D'accord.
Et ce qui est intéressant...
Donc, si on a la flemme d'aller trop loin, on ne prend pas quoi ?
Ah ben non, surtout pas. On va pas traverser tout Paris pour aller.
Mais c'est bon.
enfin. Mais quand on crée son profil, on peut mettre à quelle distance on accepte les gens.
C'est comme quand on cherche une nounou en fait.
C'est exactement la même chose. C'est comme chercher une nounou en fait. C'est exactement le même principe.
Okay.
Et donc on peut mettre une limite de 5, 10, 15. Alors si vous êtes dans la Creuse, il vaut mieux mettre une centaine de kilomètres.
C'est ça.
Si on est à Paris, on peut mettre 1 kilomètre.
50 mètres.
On peut pas mettre, c'est en kilométrage.
Ah pardon.
Ouais, c'est en kilométrage.
Donc, il faut qu'il soit près de nous, ça c'est l'idée. Et cet Olivier-là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il a d'autre qui, pour vous, en fait de lui un profil typique sur Tinder ? Vous les croisez en, vous les classez en 3 catégories. Il y a les riens, c'est dur quand même. Il y a les lions et il y a les phénix. Lui, il est dans quelle catégorie ?
Alors, ils sont classés à partir du moment où on match, à partir du moment où les deux personnes... clique sur le cœur, et donc du coup, elles ont envie de se parler.
Okay.
Lui, en fait...
Je prends des notes.
Lui, je pense que ce serait soit un rien, soit un lion.
Mais c'est affreux, un rien. C'est quoi un rien ?
Non, le rien, en fait, c'est la personne avec qui on match et personne ne se parle. D'accord ?
Donc d'accord.
C'est ça qui est assez fou.
Rien.
Il ne se passe rien.
D'accord.
Bah, on regarde un peu plus la photo, par exemple, on se dit, non mais en fait, j'aime pas trop son sac à dos. Donc cette personne, cet Olivier, sur la photo, il fait grand aventurier, il a un sac à dos, il a une gourde ouverte, et il est de dos. Donc c'est assez marrant sur un profil, puisque Tinder est basé vraiment sur le physique. Hein. C'est pas comme s'il avait écrit qu'il aimait les carottes râpées ou pas, ou qu'il est allergique.
Mais ça, c'est pas bon de se mettre de dos.
Non mais c'est assez représentatif. Il y a beaucoup de profils sur Tinder. Ce qui est important, c'est que là, il est au Machu Picchu.
Ah.
Donc, on s'imagine que c'est un grand voyageur, un grand aventurier dans l'éternel qui fait l'ascension de tous les sommets du monde.
Et ce qui le place dans la catégorie phénix ou dans la catégorie lion ? C'est quoi la différence entre les deux ?
En fait, une fois qu'on match, c'est basé sur la discussion qu'on va avoir.
D'accord.
Si elle est d'une banalité déconcertante, on risque fort d'être un lion.
D'accord.
En revanche... Salut, t'as fait quoi de beau
d'accord.
aujourd'hui ?
Okay.
Quand on reçoit 10 conversations comme ça, on n'a pas forcément envie de répondre à une seule.
Mm-hmm.
D'accord ? En revanche, le super phénix qui va dire, faire un commentaire sur une photo, qui va faire un commentaire rigolo, etc.
Qui brille par son originalité. C'est ça ?
Qui sort du lot.
Voilà.
Donc
ça,
lui,
c'est le super phénix.
C'est le super phénix.
Okay.
Voilà.
Vous voulez ajouter quelque chose sur cette photo ?
Non, sur la photo, c'est juste que je trouve qu'elle est intéressante dans le sens où elle est très représentative des sites de rencontres où on se met complètement en scène. Je pense que cette personne est allée une fois au Machu Picchu. Est-ce que c'était un grand aventurier ? Je ne sais pas. Mais c'est l'image qu'on veut ressortir. Je suis sûre que derrière, il y a une photo... on veut faire ressortir, pardon. Il y a probablement une photo où derrière, il est en train de faire du surf. Et après, il est.
Et une autre où il est en train de descendre ses poubelles. Ah ben non, pas lui. Lui, ça, il le fait pas.
Non, mais... il a jamais de miettes dans la barbe ou il a jamais de boutons sur le
pas.
Nez. Ça n'arrive pas.
Évidemment.
Tout le monde est bon. C'est ça qui est bien sur Tinder.
Et les femmes sur Tinder, est-ce qu'elles aussi peuvent correspondre à ces trois catégories-là? C'est affreux, mais je vais le redire. Les riens, les lionnes et les phénix.
Super phénix.
Il est super phénix, pardon.
oui, complètement. Alors là, c'est exactement la même chose. Hein. C'est, mais une fois de plus, ça, c'est une fois qu'on a matché.
Oui, oui, oui.
Hein, d'accord. Mais oui, oui, complètement. Les femmes sont exactement sur le même plan.
D'accord. Alors, comme chaque matin, nos immersions parlent à tous nos sens, il y avait un toucher, c'est ce que vous nous avez dit, en préparant l'émission, ce serait le froid de l'écran, mais aussi la chaleur d'une peau. L'odeur, ce serait celui du parfum qui se niche dans un cou qu'on pourrait embrasser. Le goût, celui du risque, nous avez-vous dit. Plus prosaïquement aussi, on a celui du vin, des cacahuètes qu'on mange dans les bars et des baisers, donc des baisers à la cacahuète. Voilà, c'est comme ça. Votre premier baiser, grâce à une rencontre Tinder, ou celui de votre héroïne qui vous ressemble quand même un petit peu, c'était où, c'était quand, c'était qui, c'était comment?
Alors, grâce à une rencontre Tinder.
Ouais.
Non, je pensais qu'il fallait revenir à mes 4 ans.
Non, bah non. On n'a pas 2 heures.
Je pense que c'était à l'opéra.
Ah,
devant l'opéra. Très... Devant, non, pas à l'opéra.
Pardon,
devant
l'opéra.
Non, c'est vrai que ça n'a rien à voir.
À l'opéra, c'est pas pareil.
Oui, entre une poubelle et un SDF, probablement.
Racontez-nous. J'imagine qu'on a, on a fantasmé pendant X jours ou quelques heures sur quelqu'un dont on a vu le profil sur Tinder, avec qui on a un peu échangé, etc. Et tout à coup, il y a ce premier baiser, il se passe quoi? En l'occurrence, c'était réussi ou pas?
Oui, en l'occurrence, c'était réussi. En l'occurrence, c'était réussi. Ce qui est assez marrant avec Tinder, c'est vrai que ça manque un peu de spontanéité, quoi, parce qu'on est... Enfin, tout est un peu arrangé.
À 16h22, je vais donc te rouler une galoche, c'est un peu ça l'idée?
C'est un peu ça l'idée.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est pas la personne qu'on va croiser sur le bord de la Seine et qui est en train de lire un livre et qui ça n'a rien à voir. C'est...
Mais ça, dans la vraie vie, ça n'arrive pas si souvent que ça d'embrasser quelqu'un qui lit
non,
un livre au bord de la Seine.
Non, à la boulangerie. Ça
à la boulangerie, plus souvent. La musique que vous avez choisie pour nous accompagner, Anna Kerr, c'est celle-ci. Ini yende mba mongo kabudu Yene mbolo ebu kinde bwemba bo Masinga na wanda Woko 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 Lende wa Papa shika pa Woko woko Kwa Woko woko Kwa mikoma Woko woko Lende wa Anna Kerr, pourquoi ce Ghana Blues pour accompagner notre immersion dans Tinder ce matin?
C'est très simple, en fait, quand j'écris, si j'entends du français ou une langue que je comprends, je peux pas, ça me déconcentre. Mmh. Du coup, je comprends pas la
ah
langue
ouais, vous
qui
comprenez
est
parlée
ici. Non, exactement. Et je trouve que c'est une chanson douce et qui est très agréable pour écrire. C'est pas une chanson qui est liée à Tinder.
Alors, pour le coup, c'est effectivement d'autant moins lié à Tinder que Tinder peut être assez violent. Il y a des échecs, il y a des malentendus, il y a même des lapins qu'on se pose. Qu'est-ce qui est le plus violent sur Tinder finalement?
Je pense que le plus violent, c'est vraiment la manière dont les gens rentrent dans notre vie et en sortent aussi vite qu'ils y sont rentrés. C'est-à-dire que, par exemple, si on va boire un café, là, demain, finalement, on ne se plaît pas, j'aime pas trop vos boucles d'oreilles.
Ah bon, moi?
Et la conversation est sympa, mais sans ouais. plus. Dans un monde normal, dans la vraie vie, je pense qu'on va se dire, bon, après on dira bon, c'était sympa, on a pris un café, ouais. bon, bah, bonnes vacances. Et finalement, sur Tinder, on peut disparaître de la vie ouais. de quelqu'un aussi vite qu'on y est rentré. Je pense que c'est assez cruel dans ce sens-là.
Et en même temps, vous décrivez une forme d'addiction, c'est-à-dire que assez vite, ça devient le premier geste qu'on fait le matin, c'est d'aller regarder s'il y a eu des matchs pendant la nuit sur le téléphone, etc. Qu'est-ce qui rend accro?
Je pense que d'une part, il y a l'aspect ludique de l'application. Elle est hyper simple. Hein. Je veux dire, il y a plein de gens qui sont dans le métro, en train d'attendre, dans une file d'attente, une terrasse de café, qui sont en train de, on dit, swiper à droite ou à gauche. Parce que
donc, donner un coup de pouce vers la droite ou
voilà,
vers la gauche.
Voilà, exactement. Ouais. Parce que c'est rigolo, en fait. Et ouais. puis, on peut regarder les profils, sans même les regarder. On peut être en train de regarder un film. C'est un passe-temps aussi d'un côté. Et c'est sympa quand on a un match, on se dit, ah, je plais à quelqu'un.
Et puis, vous l'écrivez, vous sortiez d'une rupture amoureuse et vous écrivez, je me sens tout à coup désirable, désirante. C'est-à-dire que ça repalpite un peu tout ça.
Alors, je pense qu'en fait, il y a des différences entre les garçons et les filles dans ce sens-là. Parce que les filles ont beaucoup plus de succès Ah oui. Il y a beaucoup plus de matchs au niveau des filles qu'au niveau des garçons. Mm-hmm. Parce que les garçons ont tendance à... Enfin, il y a beaucoup de gens qui acceptent tout le monde sans regarder les profils, donc de manière complètement machinale. Alors que les filles, je pense, sont plus sélectives.
Oui.
D'accord. Donc, je crois qu'au niveau des hommes, parfois, c'est un peu une perte d'estime de soi.
Ah.
Au contraire, justement, ouais. Parce qu'ils n'ont aucun succès.
Un peu trop souvent.
Ou alors, ils n'ont même pas de match, en fait, parfois.
Ouais. Ouais, bon, après, alors que pour les filles, effectivement, ça reconstitue un peu l'estime de soi, ça refait rêver un petit peu, il y a de la, ça remet un peu de légèreté.
Oui, exactement. Et puis, je pense que c'est vrai qu'on se dit, ah, je plais. Enfin, quand on a, je sais pas, moi, 50% de matchs, ouais. On se dit, ah, y a, ouais. Ça veut dire que une personne sur deux qui me croise dans la rue, je lui plais, en fait, elle ne me parle pas.
Et puis, à un moment donné, bah, ça va au-delà du match, au cinquième jour de vos pérégrinations sur Tinder. Mazel tov, vous pécho, évidemment, c'est un Italien. Mais bon, à part ça, pourquoi avec Marco, oui, avec les autres, non?
Alors, dans...
dans le roman, qui est un roman et qui est une fiction.
C'était la troisième date de la journée.
Ah oui.
Voilà, c'est fatigant, hein.
C'est ça, c'est qu'il y a un côté effectivement que vous décrivez qui est très, assez, qui finit par être assez compulsif, où on match, on rencontre, on match, on rencontre, on match, on rencontre. Et donc, Marco?
Marco, en l'occurrence, c'est un match qui est à 1h du matin. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément
d'ambiguïté?
D'ambiguïté, voilà.
Ouais.
Sur la suite.
Et au réveil, vous comportez finalement, vous avez des, enfin, vous décrivez des attitudes qui sont celles qu'on peut reprocher à Tinder, puisque vous parlez de proie en le regardant, vous dites c'est une bonne prise. Alors assez rapidement, on adopte ces codes-là qu'on rejette tant qu'on n'est pas sur Tinder, on est pris par le truc.
Mais complètement. Enfin, il faut préciser que sur Tinder, quand on est dans une grande ville, il y a une offre infinie de personnes. On a vraiment l'impression que c'est un fontaine de jouvence, quoi.
Complètement.
Ouais, exactement.
Et donc, on devient comme ça.
Ouais.
On consomme, on prend, on jette.
Mais on s'en lasse tout aussi vite. Hein. C'est ça qui est intéressant sur Tinder. C'est hyper ambivalent. On adore, on déteste, on l'enlève, on s'y remet. On dit que c'est nul. En fait, on y est tout le temps. Non, mais c'est...
Alors, vous nous direz si, pour finir, au bout de ces 14 jours, vous avez enfin rencontré l'amour, le vrai Anna Kerr. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter un artiste qui pourrait, lui, vous plaire. Je sais pas, une nouvelle voix qui fait tilter la chanson française. Il s'appelle Tim Dop et c'est un soleil noir.
Je suis resté 15 minutes, la tête ancrée dans le bitume. Je me suis noyé dans les rues en enchaînant les boulevards. Comme si y avait au fond quelque chose à y voir. Une fucking interprétation de son sourire au coin du bar. En dansant dans la street, j'ai fait cracher mes poumons pour qu'ils vident l'envie qu'ils avaient de crier, de ne plus jamais la voir disparaître la nuit, s'envoler dans les ombres. Comme au tout premier soir. Des jours sans fin, merveille, merveille, contre son sein. Soleil, soleil, main dans la main, merveille, merveille, comme un dessin. Bien des heures à me noyer dans les verres opaques des terrasses en fumée, à contempler les visages qui s'épanouissent, à contempler le sien avant qu'il ne s'esquisse, un peu comme les couleurs primaires qui parfois s'évanouissent pour devenir pastel, aquarelle ou métis, un peu comme la nuit blanche qui retient le sommeil. Mais dans l'ivresse et baignée de lumière, elle me happe et m'échappe. Faut que je la rattrape. Soleil, soleil, des jours sans fin. Merveille, merveille, contre son sein. Soleil, soleil,
primaires qui parfois s'évanouissent pour devenir pastel, aquarelle ou métisse. Un peu comme la nuit blanche qui retient le sommeil, paumée dans l'ivresse et baignée de lumière. Elle me happe et m'échappe. Faut que je la rattrape.
Soleil Noir, tout dernier single de Team Dup et deuxième petit bijou de la playlist concoctée pour vous ce matin par Elsa Béranger, notre programmatrice musicale. Donc quelque chose me dit qu'elle pourrait faire disjoncter Tinder. Et oui, je vois leur sourire goguenard là derrière la vitre. Hein. Depuis le début de l'émission, je vais me faire un plaisir de les balancer à la technique ce matin. Léo Pringet à la réalisation, Romain Imbertèche. Eux matchent depuis le début et ce parfaitement bien. Valentin Pérez et Johanna Hébert qui assurent la programmation et la coordination de cette émission avec bien entendu le coup de pouce. Bonne vanne, hein, le pouce, ok, vous l'avez. De Rose Bernard et d'Elisa Bondarenko. Allez hop, on y va.
Dans quel monde on vit ? Julia Voice sur France Inter.
Et ce matin, vous suit Anna Kerr dans le labyrinthe de la rencontre amoureuse dans les méandres de l'une de ses applications reines, Tinder. Votre livre Tinder Surprise raconte comment en 15 jours on peut essayer de trouver l'amour, le vrai ou de pécho tout simplement. Est-ce qu'on peut tomber amoureux sur Tinder ?
Je reviens d'un mariage Tinder.
Ah, donc ça marche ?
Ça marche pas à tous les coups.
Mais donc c'est possible.
Et oui, c'est possible.
Alors, Tinder a sorti une étude en 2015, donc publiée dans le Guardian. 80% de 300 000 utilisateurs interrogés seraient à la recherche d'une rencontre longue durée. Donc, on est complètement aux antipodes des stéréotypes qu'on peut avoir sur ce genre d'application.
Et je crois que c'est assez intéressant justement de voir la connotation qu'a Tinder, où c'est vraiment on a l'impression que c'est vraiment une application pour trouver un plan d'un soir, par rapport à la réalité et ce que j'ai vu autour de moi ou ce que j'ai expérimenté. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il y a des gens qui ne cherchent pas du tout un plan d'un soir. Hein, ou...
Mais après, c'est comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que comme dans la vraie vie, quand on va dans des soirées ou dans des bars, il y a des gens qui cherchent un plan d'un soir, il y a des gens qui cherchent le grand amour. Donc,
Oui, mais je crois qu'à la base...
C'est ni plus ni moins.
Oui, ça c'est évident. Mais je pense qu'à la base, Tinder a vraiment cette connotation de plan d'un soir par rapport à Mythic où les gens payent pour pouvoir rencontrer des gens. Alors que Tinder, c'est gratuit, n'importe qui.
Le drame de la gratuité, voilà, c'est ça qui se passe. Alors, sur cette question-là de peut-on trouver l'amour sur Tinder, il y en a qui se sont fait un avis assez rapidement. Écoutez cet extrait de L'embarras du choix, c'est avec Sabrina Ouazani, Franck Gastambide et Alexandra Lamy.
Ne me dis pas que t'es tombée amoureuse.
Non, mais bon...
Mais c'est Tinder ! Mais on tombe pas amoureux sur Tinder ! Je crois même qu'ils le garantissent dans leur statut !
Mais moi, je vais y aller.
Ouais, bon. Salut.
Bonsoir, madame.
Rappelle-moi ton prénom.
Gilles, c'est Gilles.
Ah, c'est vrai, je me suis tapé un Gilles.
Non, parce que c'est le prénom de mon grand-père.
Ouais, on s'en fout, on excuse à les nazes. Dis-moi, Gilles, t'es amoureux ?
De qui ?
Bah, de moi, évidemment.
Bah...
Oui, vas-y, non, mais vas-y, dis-le franchement.
Ce soir-là, tout de suite ?
Non, mais dis-le. T'es amoureux, oui ou non ?
Non.
Non, voilà, tu vois, on peut pas tomber amoureux sur Tinder, enfin.
Ah bah non.
Bah non. Non mais parce que elle est tombée amoureuse sur Tinder.
Quoi ?
Ouais.
Non.
C'est grave.
Non, Tinder, c'est pour la ken, ça n'a rien à voir.
Voilà.
C'est ça qu'il voulait dire.
Exactement.
Voilà. Salut.
Au revoir, monsieur.
Alors, on ne traduira pas Tinder, c'est pour la ken, parce que sinon, je vais encore me faire engueuler. Anna Kerr, ce que vous dites finalement, c'est que tous ces critères que l'on met dans les rencontres en ligne, c'est ça qui risque de nous faire passer à côté de la rencontre amoureuse, parce qu'il peut y avoir 28 critères, il n'y a pas forcément de chimie.
Ouais, je pense. Je pense que ce qui est intéressant dans la rencontre, c'est... Dans la rencontre en général, c'est l'alchimie qui passe entre les gens, c'est on se revoit, il y a cette espèce de douce ivresse qui monte au fur et à mesure. Est-ce que ça se passe en une fois ? Probablement non. C'est pas la première fois qu'on a rencontré quelqu'un qu'on s'est dit « Ah, mais j'ai envie de passer le reste de ma vie avec cette personne ». Mais je pense que sur Tinder, on donne rarement la chance, en fait, à ce que cette...
À la surprise.
Oui, et aussi à donner une deuxième chance aux gens finalement, parce qu'on les voit, on les voit pas dans un environnement social, on les voit pas dans leur habitat naturel, j'ai envie de dire. On les voit autour d'un verre, et c'est deux inconnus qui se rencontrent autour d'un verre.
Alors vous parliez d'alchimiste. L'alchimiste, on l'a avec nous aujourd'hui, Amélie Guérard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, alors attendez, Head Matchmaker chez Once. Alors, si comme moi, à la première tentative, vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, on va la refaire. Alors Once, déjà, c'est une application de rencontre, mais c'est surtout l'anti-Tinder, en tout cas c'est comme ça qu'elle
exactement,
est présentée.
Exactement,
ouais. Pourquoi ? En quoi ?
Alors, tout simplement parce que, contrairement à Tinder, où on va swiper parmi des centaines et des centaines
swiper,
de...
Je répète une fois de plus, c'est le coup c'est de pouce vers la droite ou vers la gauche, c'est la dernière fois que je le dis, hein.
Donc, voilà, en fait, le concept de One, c'est de proposer un seul match par jour. Et la spécificité de ce match.
Donc, un seul rendez-vous.
Un seul rendez-vous. Voilà, ouais. Une seule rencontre par jour, tous les jours à midi. Et ce match a été choisi.
Si à midi, on mange.
Bon, on reçoit une notification. On peut éventuellement regarder son match plus tard.
Okay. Pour le regarder.
Et du coup, ce match est choisi par des entremetteurs, donc en français, des entremetteurs humains qui vont matcher des gens derrière leur écran.
Vous dites humains parce que dans les sites de rencontres et les applications pour smartphone, habituellement, c'est plutôt des algorithmes.
Exactement.
C'est ça,
ouais.
Qui calculent avec qui vous êtes compatible.
Ouais.
Et là, vous avez remis de l'humain dans tout ça, d'où l'idée de mettre des marieurs derrière l'écran, dont vous êtes la chef, donc Head Matchmaker, ça aussi, j'espère que vous l'avez. Ok, on l'a.
Responsable des entremetteurs.
Ça, c'est un métier. Bonjour, je suis responsable des entremetteurs. Qu'est-ce que vous faites exactement ?
Alors, moi, mon rôle au quotidien, ça va être de recruter, de former et de superviser donc tous les matchmakers. Je continue à matcher moi également. À matcher des gens, même si ça reste à peu près 20 à 30% de mon temps. Et donc, du coup, j'encadre tous ces matchmakers.
Mais comment vous les formez ? Sur quels critères vous les recrutez ? Qu'est-ce qui fait qu'on va être un bon entremetteur ? C'est pas que j'essaye de me placer, hein, mais...
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on recherche pas forcément des gens qui vont avoir un background spécifique, par exemple en psychologie. C'est des gens qui viennent vraiment de tous horizons.
Vous prenez des bourrins, vous préférez.
De tous horizons. En fait, ce qu'on va rechercher, c'est un matchmaker. Mmh. Ça va être quelqu'un qui va être très observateur, qui va faire attention aux détails. Parce que la manière dont on fait les matchs, ça va être de décrypter la photo. Donc en fait, les matchmakers ont accès uniquement à la photo et à la description de l'utilisateur. Et donc du coup, le but, ça va être de regarder tous les petits détails, de lire la photo, d'essayer de comprendre la personnalité de l'utilisateur et d'essayer de trouver des similarités avec un autre profil pour le but ultime, c'est bien sûr de créer le match parfait.
En vous basant exclusivement sur une photo.
Exactement.
Donc sur une photo, on peut se dire ces deux personnes-là sont compatibles. Pourquoi, par exemple ?
On s'est rendu compte que finalement, les photos qu'on mettait sur des sites de rencontres, ça disait énormément de nous. Donc que ce soit l'attitude qu'on a dans la photo, les vêtements qu'on porte, est-ce qu'on est plutôt du style on va se prendre en photo devant la glace, est-ce qu'on est plutôt voilà ce qu'on fait, est-ce qu'on a des hobbies, est-ce qu'on a des passions, ça va dire beaucoup d'une personne et ça va énormément aider les matchmakers à justement trouver une personne qui pourrait avoir des affinités.
Mais parce que les matchmakers partent du principe que qui se ressemble s'assemble ou que les contrats
s'attirent ? Il y a beaucoup de ça, mais pas que. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de ça.
Donc on est notoirement endogame parce qu'on se dit qu'il n'y a que ça qui marche finalement.
Il n'y a pas forcément que ça qui marche. Après, c'est vrai qu'on a quand même tous un type. Et voilà, on aime tous un peu plus les grands blonds ou ceci et là, et on aura plus tendance à aller vers un même type de personnes et des personnes qui aussi nous ressemblent.
Oui, sauf que ce qu'on a beaucoup dit aussi sur les applis et les sites de rencontres, c'est que justement, ça nous permettait de sortir de notre cercle habituel, de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas croisés habituellement. Est-ce que ça, c'est aussi une fausse idée, Anakar, ou est-ce que vraiment ça ouvre ?
Alors oui et non. Je pense qu'effectivement, ça permet de rencontrer des gens d'horizons différents, donc en dehors de nos cercles. Mais honnêtement, il n'y a pas énormément de mixité sociale non plus, à partir du moment où il y a la profession, par exemple.
Ouais.
Donc ça veut dire que est-ce qu'un ingénieur agronome va avoir envie de matcher, enfin de rencontrer, je sais pas moi, stagiaire, je sais pas où. Peut-être que je suis un peu trop dans le stéréotype, mais à partir du moment où il y a la profession, je pense.
Vous pensez que déjà, on fait le tri comme ça.
Ouais, je pense.
Est-ce que
et l'arrondissement à Paris.
Ah bon ? Mais vraiment ? Mais parce qu'on veut être dans son arrondissement ou c'est pour une question de proximité géographique ou culturelle ?
Culturelle, je pense.
Ouais. Donc effectivement, cela dit, toutes les études sur le couple prouvent les couples, malheureusement, qui marchent le mieux, qui durent le plus longtemps, sont effectivement
au
plutôt
travail.
Endogames et se rencontrent au travail. Ça reste très vrai. Amélie Guérin, est-ce que vous avez un suivi des matchs que vous faites ? Parce que vous décidez que deux personnes ont tout pour être ensemble, et après, il se passe quoi ?
Bien sûr. En fait, on a une manière de mesurer la réussite des matchmakers, et ça va se traduire par un pourcentage. Donc les matchmakers vont avoir accès à un pourcentage parmi toutes les personnes qui vont matcher ensemble, le nombre de personnes qui vont connecter, donc qui vont aimer mutuellement les profils,
ouais.
Et qui vont entamer une conversation.
Et qui vont se parler, et puis après libre
exactement.
À eux de faire ce qu'ils veulent.
Voilà.
Est-ce que c'est vrai que les matchmakers sont rémunérés à leur performance ?
Oui,
ça fait partie, c'est-à-dire qu'un bon matchmaker va être mieux rémunéré qu'un moins bon matchmaker.
C'est-à-dire, si à partir du moment où, imaginons que je suis entremetteuse, décidément, je prépare ma reconversion, si je réunis deux personnes, elles discutent, là je suis payée, par contre, si elles ne discutent pas, là je suis pas payée. C'est ça l'idée.
Dans les deux cas, c'est payé, mais il y aura un bonus si la personne a des matchs.
Ce qui va nous rendre, qui va nous rendre beaucoup plus observateurs.
Voilà, exactement.
Comment est-ce que vous êtes retrouvé à être head of matchmakers, chef des entremetteuses dans une application comme Once?
Moi, ça m'a un peu tombé dessus par hasard. En fait, après mes études à Paris, je suis allée à Londres pour changer un petit peu d'air. Et j'avais un ami qui connaissait quelqu'un chez Once et qui m'a mis en relation parce qu'il savait que je cherchais un travail. Et voilà, je suis arrivée là par hasard. J'ai rencontré l'équipe de Once.
Mais qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Vous étiez comme ça? Est-ce que dans la vraie vie, vous êtes aussi...
J'ai toujours eu une certaine sensibilité à matcher des gens et je suis assez observatrice. Donc, j'ai souvent tendance à voir un peu qui irait bien avec qui.
Ouais. Et j'ai d'ailleurs. Et ça marche, ça.
Ouais. C'est. Je pense que c'est une sensibilité qu'on a. C'est voilà, être observatrice, ça faire un petit peu attention aux détails.
Mais finalement, One s'inscrit dans une tendance plus générale de, après une espèce de surconsommation d'Internet, il y a du slow partout, on veut mettre du lent partout, c'est de la slow drag. One, est-ce que ça aurait pu vous convenir ou convenir à votre héroïne, Anna?
Moi, ce que j'ai trouvé très drôle sur Once et que j'ai observé justement, c'est le fameux envoi à midi de l'homme, quoi.
Parce que l'envoi de l'homme.
L'envoi de l'homme à midi. Parce que du coup, c'est marrant parce qu'on se dit. Moi, j'avais une copine qui était complètement incroyable. Elle disait, il est minuit moins 5, je t'appelle à midi. et ça, je pense que c'est rigolo. Après.
Mais vous l'avez testé, vous?
Ouais.
Et du coup?
J'ai jamais rencontré qui que ce soit. Enfin, j'ai jamais rencontré physiquement qui que ce soit.
Aïe. Est-ce que vous savez qu'à cause de vous, les salariés ont été moins payés parce que vous n'avez pas donné suite?
Mais j'ai pu matcher. Donc, ils ont quand même pu s'acheter un sandwich.
Ah, c'est pas mal. Amélie Guérard, merci beaucoup d'être venue nous voir.
Merci à vous.
Vous restez encore quelques minutes avec nous. La suite devrait vous faire sourire ou hurler. Hein, je ne sais pas, c'est un texte tiré de The Game où l'auteur Neil Strauss s'infiltre dans une communauté d'hommes qui rêvent de devenir des virtuoses de la drague et qui pour ça se font sévèrement coacher. Oui, ça ressemble un petit peu à nos alpha mâles de la semaine dernière. C'est le texte que vous avez choisi, Anna Kerr, et il est lu par Daniel Fievet.
Mystery adorait les théories. Celle du paon à legs, qui, s'il veut attirer la femelle la plus désirable de son espèce, doit se distinguer par des couleurs voyantes. Pour les humains, nous expliqua-t-il, l'équivalent de la queue du paon déployée, c'est une chemise brillante, un chapeau aux couleurs criardes et des bijoux qui s'allument dans le noir. Bref, tout ce qui m'avait toujours horrifié. Quand mon tour est venu, Mystery a débité une liste interminable de points à corriger. Me débarrasser de mes lunettes, tailler mon bouc informe, raser le poulpe entretenu à grands frais qui ornait ma tête, m'habiller de façon plus tape à l'œil, porter un accessoire clinquant ou carrément des bijoux, me bouger un peu. Je notais chacun de ses conseils. Tiens, voilà une intro que tu pourrais utiliser. Une intro est une phrase préparée et destinée à engager la conversation avec un groupe d'inconnus. C'est la première arme de l'aspirant dragueur. Quand tu auras repéré un groupe où se trouve une fille qui te plaît, va leur dire « Tiens, on dirait qu'on s'éclate ici ». Puis adresse-toi à celle que tu vises et ajoute « Si je n'étais pas gay, tu serais déjà folle de moi ». Aux autres membres du groupe, il proposa de nouveaux exemples d'intro, des questions aussi innocentes qu'intrigantes. Le but de la méthode Mystery, nous expliqua-t-il, c'est de ne pas se faire repérer. Ne jamais aborder une femme avec une allusion équivoque. D'abord qu'elle se dévoile, puis qu'elle mérite le droit de se faire emballer. Un amateur se met à draguer illico, déclara-t-il en se levant, prêt à quitter l'hôtel. Un pro attend 8 à 10 minutes. Équipés de notre théorie de groupe et de nos intros de camouflage, nous étions parés pour la tournée des boîtes.
Un mode d'emploi à suivre, bien évidemment, au pied de la lettre, surtout le tiens, mais on s'éclate ici. Anna Kerr, vous en êtes revenue de tout ça, de ce monde-là, de la rencontre en ligne?
Complètement.
Au fond, c'est pas votre truc du tout?
Non, je pense pas du tout, mais ça veut pas dire que ça correspond pas à certaines personnes. Il y a des gens qui sont très timides, comme, qui oseraient jamais aborder une autre personne. Moi, personnellement, c'est vrai que c'est pas du tout un mode de rencontre qui me convient. Je pense que
pourquoi?
Ça crée. Parce que, déjà, parce que je suis pas dans le message, justement. Parce que je suis pas, enfin, raconter sa vie à un inconnu, je vois pas du tout l'intérêt, en fait.
Et en même temps, vous le dites, ça fonctionne. Des bébés Tinder, il y en a. 9% des couples aujourd'hui se forment en ligne. Alors, c'est pas une majorité, mais c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qui fait que pour eux, ça fonctionne?
Peut-être parce qu'ils sont un peu plus patients et un peu plus tolérants sur la nature des messages, qui supportent les fautes d'orthographe, ce genre de choses. Non, plus précisément, plus sérieusement, je pense qu'il y a des gens à qui ça correspond et qui recherchent vraiment quelqu'un aussi. Et dans ce cas-là, ils vont remplir leur profil correctement. Ils vont prendre le temps de parler à la personne. Ils vont être plus sélectifs sur les rencontres qu'ils font. Enfin, dans le roman, c'est de la boulimie de personne.
Oui, il y a une phase assez boulimique. Vous faites le bilan de cette boulimie à la fin du livre, un bilan d'abord comptable, hein, 296 hommes avec lesquels vous avez matché, vous en avez rencontré 18, bu au passage 43 verres de vin et 46 litres de thé noir, tout ça pour rencontrer quelqu'un. Le seul qui vous fasse quelque chose, c'est quelqu'un que vous rencontrez dans la vraie vie.
Oui, exactement.
Il vous fait le petit frisson en plus, quoi.
C'est le vélo.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, il y a ce besoin-là de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie.
Je pense que sur Tinder, il y a vraiment pas de sens en fait qui sont. Il y a
parce
pas
qu'on appelle la vraie vie, parce que.
Oui, non, exactement. Finalement, Tinder est la vraie vie, mais je pense qu'il y a pas de sens dans les applications. De sens au niveau, il y a pas l'odeur, il y a pas le sourire, il y a pas le ouais, une fois je viens de dire l'odeur.
Il y a
exactement. Et je pense que ça joue énormément dans la chimie. Souvent, on est dans un bar, il y a quelqu'un qui est pas forcément beau, mais on se dit, mais la manière dont il interagit socialement, la manière dont il se comporte, il rigole, ça le rend attirant finalement. Alors que, bon, est-ce que quelqu'un qui veut mettre
Choupi Choupi
ouais, c'est
de la
photo.
Alors, il y en a une qui, il y a 30 ans, tout pile, n'avait qu'à se retrousser les manches pour aller pécho et donner de la voix pour traverser les Alpes. C'est l'une des rares italiennes à être venue jusqu'ici. Enfin, je parle des chanteuses, évidemment, parce que sinon, bref, John Nannanini, évidemment.
L'espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. I maschi disegnati sui metro confondono le linee, ti miro nelle vetrine dietro ai bistrò, ogni carezza della notte quasi amo. Carezza della notte quasi amor. Tu sotto la giacca cosa avrai di più? Quando fa sera il cuore si scatena, mi va sulle scale, poi te lo darò, quello che sento, parlami ancora un po'. I maschi disegnati sui metro confondono le linee, ti miro dalle vetrine dietro ai jukebox, ogni carezza della notte quasi amor.
Nini Imaski, je ne vous traduirai pas les paroles, d'autant qu'à mon avis, elle n'avait pas bu que de l'eau en les écrivant. Disons que c'est une femme, on va dire quoi? On va dire qu'elle sait prendre son désir en main.
Dans quel monde on vit? L'été sur France Inter.
Dans quel monde on vit l'émission qui vous parle de vous, de vos amours, de vos galères, de vos étés? Non, pas de vos hivers. Notre répondeur est à votre disposition. Alors n'hésitez pas, appelez-le, faites-le 01 56 40 55 35. Racontez-nous vos souvenirs d'été, une rencontre forte, une histoire folle, un moment où les choses, quelles qu'elles soient, ont basculé. Racontez-nous, on adore ça. Alors merci François pour cet été particulier. Attention, je dis François, François au son du bignou. Bah oui, il est breton, breton, bignou, bignou, breton. Ah, pas con.
Oui, bonjour, l'émission Dans quel monde on vit? Bon, ben moi je suis néo-retraité, j'étais artisan confiturier, j'ai du mal à trouver un été particulier à vous raconter en 1 minute 30, mais je pense que celui qui est en train de se dérouler là va être très très bien, puisque je vais enfin quitter Paris après 35 ans de bons et loyaux services, et me retrouver enfin à Concarneau, dans ma future maison. Concarneau, j'y vais depuis 1982 et il me tardait enfin d'être retraité pour pouvoir m'installer là-bas. C'est en cours et ça me fait énormément plaisir. Petite anecdote, ça fait 36 ans que je monte 5 étages, sans donc pas d'ascenseur évidemment, et là je vais être dans une maison de plein pied. Donc je vais avoir ma chambre au rez-de-chaussée. Je peux vous dire qu'à 20 ou 25 ans, monter 5 étages, ça va tout seul. Mais à 62 ans, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Au revoir. C'était François de Paris 20e.
Les fessiers, François de Paris 20e, ça se bosse, hein, même à 62 ans. François qui nous a quand même, hasard du calendrier, envoyé une carte postale aujourd'hui, manuscrite, si, si, ça se fait encore. Il nous dit qu'on ne lui répondra pas. Eh ben, c'est faux, on vous répond, François. Merci beaucoup pour ce message et pour cette carte. Anna Kerr, vous allez nous emmener là très très loin. Avec l'objet que vous ne nous avez pas rapporté. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais pourquoi? Si, j'ai rapporté.
Il est où?
Mais il est là.
Eh bien, montrez-le nous.
Mais voilà. Mais il n'y a pas de vidéo.
Donc, dans un sac. Mais non, mais je décris, je fais la vidéo. Dans un grand sac vert, nous avons un tissu orange pétant. Et c'est quoi que vous déployez? C'est une cape, c'est un manteau. Alors, dites-nous de quoi il s'agit.
Est-ce que c'est un truc de dresseur de lion.
C'est un truc de dresseur de lion. Donc, vous dressez des lions. Très bien.
Non, c'est une. C'est une dalle mongole, c'est l'habit traditionnel mongol. J'ai passé plusieurs années en Mongolie.
Ah bon?
Oui.
Vous y faisiez quoi en Mongolie?
Bon, je gardais des chèvres comme tout le monde. Hein,
évidemment.
C'est ce que les gens font, non? En alors, vivant dans une yourte.
Je ne sais que vous ne voulez pas dire grand-chose de votre vie hors écriture. Quand même, juste un petit indice, parce que je pense que les auditeurs sont en train de se dire qu'est-ce qu'elle foutait en Mongolie, juste pour le travail?
Oui, oui, non, je travaillais en Mongolie, du coup j'ai passé plusieurs années et la raison pour laquelle j'ai amené donc la dalle, je le prononce très très mal, c'est l'été en Mongolie, on comprend l'été en fait quand on est en Mongolie parce qu'on a 9 mois d'hiver à moins 40 parfois, même plus ou moins, et du coup et on a ces quelques jours, semaines d'été.
Mais vous étiez punis en Mongolie, c'est ça qui s'est passé?
Oui, il y avait des goulags.
Votre entreprise s'est dit, bon, on va l'envoyer où? On va la mettre en Mongolie, ah non, là où il fait froid pendant 9 mois, très bien.
Pas du tout.
Oui.
Et donc, on comprend ce qu'elle était et du coup, chaque jour, on profite un peu plus. Et ça, c'est l'habit qu'on met pendant la fête nationale qui dure 3 jours en juillet, où il y a des courses de chevaux, enfin, il y a des combats de lutte mongole et de compétitions de tir à l'arc. Et c'est une espèce de grande fête dans tout le pays. Le temps s'arrête. C'est incroyable comme expérience.
Est-ce que Tinder passe en Mongolie ou pas?
Mais Tinder est dans tous les pays du monde. Hein.
196, hein, j'ai lu.
Ouais. Enfin, non, il y a un pays, quoi, en gros, où ça y est pas.
Pardon? Il y a un pays où
bah,
ça y est pas?
Quasiment. Il y a que des pays reconnus
effectivement partout. Ouais. Ouais. Et ce DEL, c'est 7 DEL, on dit ce ou 7? Eh ben, vous savez pas. Voilà. Eh ben, bravo. Donc, ce set DEL, on vous l'a offert, c'est vous qui vous l'êtes acheté?
Non, je me la suis achetée, je me la suis offerte.
Et vous la portez?
Oui, pour la fête nationale, oui, je la portais.
Ah, vous la portiez, vous la portez plus?
Non, 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 je ne la mets pas à Paris, non. Non, non,
à part pour
pas.
Nous, dans ce studio. Alors, vous dites pas grand-chose de vous hein, dans ce Tinder Surprise présenté, on le rappelle, comme un roman. Vous dites que quand vous avez fait cette pause Tinder, c'était une vraie pause, vous étiez à la retraite, professionnellement parlant, une pause de 15 jours, parce que c'est tellement chronophage qu'il vaut mieux pas faire autre chose, c'est ça?
Non, la manière dont ça a été fait était chronophage et prenait beaucoup de temps. Après, je pense que si on passe 5 minutes sur Tinder par jour, on a le temps de faire autre chose à côté.
D'accord, vous rassurez, je pense, un certain nombre de nos auditeurs qui étaient prêts à télécharger cette application et qui se sont dit « Mon Dieu, ça va prendre beaucoup trop de temps !» Merci beaucoup, Anna Kerr, d'être passée nous voir. Tinder Surprise est édité chez Albin Michel. J'ai dit oui, Belin, pardon, en début d'émission, c'est pas du tout ça, hein, c'est Albin Michel, on le redira X fois s'il le faut. Votre manteau mongol, on va le retrouver dans moins d'une heure sur Instagram, hashtag Dans quel monde on vit. L'intégralité de l'émission, c'est sur franceinter.fr que vous la retrouvez, à podcaster sans modération aucune. Nous, on se retrouve demain avec le dessinateur, bientôt réalisateur, Mathieu Sapin. On se glissera dans les petits recoins de l'Élysée.